Notre invité secrétaire général de la CFDT, on va reparler, Laurent Berger, de vos propositions pour un pacte social et écologique. On va parler bien entendu du mouvement social, avec notamment cette grève d'aujourd'hui auquel la CFDT ne s'associe pas. Mais peut-être une réaction tout d'abord sur le Brexit.
Le Brexit, ça a été dit, c'est un naufrage. C'est un naufrage dû à l'enchaînement d'irresponsabilités. Ça démarre avec l'irresponsabilité d'un homme, il ne faut jamais l'oublier, Cameron, qui pour des raisons internes à son parti lance ce référendum. Et ensuite, il y a l'irresponsabilité en chaîne. Et à chaque fois, on oublie quoi? On oublie les citoyens, la situation des travailleurs britanniques, qui va grandement souffrir de cette situation. Et donc, aujourd'hui, objectivement, plus personne n'y comprend rien, c'est évident. Mais derrière, il y a quand même des conséquences très concrètes. Des conséquences pour les travailleurs britanniques, les citoyens britanniques, des conséquences de ce côté ici aussi de la frontière, pour un certain nombre d'entreprises, pour un certain nombre d'activités. Aujourd'hui, les douaniers de la CFDT notamment sont dans ce qu'on appelle une grève du zèle pour expliquer qu'il y aura des conséquences très concrètes, y compris pour les agents publics français.
La responsabilité, le mot responsabilité, c'est un mot auquel vous êtes très attaché, Laurent Berger.
Oui, parce que, vous savez, lorsqu'on occupe une responsabilité, qu'elle soit politique, syndicale, économique, médiatique, on doit mesurer sa parole, mesurer ses propositions, faire en sorte de concourir à l'intérêt général. Et lorsque ce qui guide les uns ou les autres, c'est la petite posture du moment, le petit coup tactique, on arrive à des catastrophes. C'est ce qui s'est passé sur le Brexit, c'est une évidence.
Et c'est la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas associé à cette grève aujourd'hui, alors que la CGT, Force ouvrière, appelle à un mouvement social.
La raison principale, c'est que le mode d'action de la CFDT, il est à la fois dans les secteurs professionnels, je viens de parler des douanes, il y a les finances, il y a l'éducation, en ce qui concerne les fonctions publiques, puis il y a aussi les mobilisations syndicales dans les entreprises privées, spécifiquement sur leur problématique. Mais vous savez, dans la période, la CFDT, ce qu'elle a choisi, c'est de faire des propositions. Et c'est pour ça que nous avons sorti, avec 19 autres organisations, ce pacte social et écologique du pouvoir de vivre. Nous sommes investis dans les conférences thématiques que le gouvernement a fixées. Nous avons fait des propositions très concrètes dans ces conférences thématiques. Et c'est ça la stratégie qui est poursuivie aujourd'hui. Chacun poursuit la sienne. Moi, je respecte. Je ne vais pas critiquer ce que font d'autres. Ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir des résultats concrets. Je ne crois pas que quelque chose d'un peu confus, dont on ne sait pas vraiment quel est le mot d'ordre, soit de nature à obtenir des résultats.
Justement, où en sont vos rapports avec le gouvernement, Laurent Berger?
Écoutez, avec le gouvernement, sur un certain nombre de sujets, il y a des échanges. On est en train on est consulté aujourd'hui sur les suites de l'assurance chômage. On a des échanges sur tel ou tel sujet. Mais pour l'instant, on est un peu à l'aveugle sur la sortie de ce grand débat. Et c'est finalement un peu le sujet du moment.
Alors c'est le sujet du moment, d'autant que, comme vous l'avez entendu au journal de 7h30, Emmanuel Macron était hier en face de 65 intellectuels. Un débat retransmis sur l'antenne de France Culture. Et à un moment, il a été question de vous, plus exactement de la CFDT. C'était une question posée par le sociologue Michel Viviorca. Écoutez Laurent Berger.
Ce qui a été beaucoup dit sur les corps intermédiaires, moi je pense qu'il y a une erreur d'analyse qui a été faite quand on m'a accusé de les marginaliser. Corps intermédiaires ou partis politiques. S'ils avaient été très structurés, très forts, je ne serais pas devant vous. Je suis le symptôme le plus avancé du fait qu'ils ne structuraient plus la société puisque la démocratie s'est exprimée en dehors de leur cadre. Donc, il y a quelque chose de toute façon qui dysfonctionnait, qui a fait que je suis là. C'est que ce qui était censé articuler, structurer le cadre politique, à un moment donné, était tellement en décalage avec la manière dont les gens vivaient, qui a pu avoir une émergence qui semblait impossible, complètement baroque, à tous les gens qui connaissaient le système. Mais je pense absolument que la société pour vivre a besoin de ces médiations à la fois territoriales, d'intérêt et de rapport à la vérité. Absolument.
La phrase d'Emmanuel Macron est assez étonnante à la question donc de Michel Viviorca pour savoir si il y avait chez lui un mépris des corps intermédiaires. Il dit voilà, si je suis là.
Je crois qu'il y a une grande confusion surtout dans sa réponse. Il y a une grande confusion. Il confond quoi? Il confond les partis politiques dont il dit qu'il est finalement la résultante d'un affaiblissement des partis politiques. C'est indéniable. On l'a vu. C'est très concret. Avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires, la société civile, les acteurs sociaux. C'est pas du tout la même chose. c'est pas du tout la même chose. On se situe pas sur le même terrain. Je refuse d'être mis dans le fait que les corps intermédiaires qui seraient les partis politiques, c'est ce serait affaibli. Donc l'ensemble des corps intermédiaires se serait affaibli. Dans le pacte que nous portons avec la Fondation Nicolas Hulot, ATD Quart-Monde, le Secours Catholique, l'UNSA et d'autres, eh bien, dans ce pacte, ce sont des millions et des millions de citoyens que nous représentons. Et là, il peut pas considérer que c'est
vous considérez que vous, la CFDT, vous êtes plus solide que les partis politiques?
Mais de fait, Monsieur Macron ne peut pas ignorer que dans le même temps où il méprise, en tout cas, il néglige les corps intermédiaires, les acteurs sociaux, la première organisation syndicale dans ce pays, c'est devenu la CFDT. C'est devenu la CFDT. Une première fois le 31 mars 2017 dans le privé, une deuxième fois en décembre dernier, tout secteur confondu, public et privé
600 000 adhérents.
Oui, 600 000 adhérents, c'est trop peu, mais enfin c'est déjà 600 000, beaucoup plus que tous les partis politiques réunis, et surtout une confiance des travailleurs dans les entreprises qui votent pour la CFDT. Donc, vous savez, nous ce qu'on cherche, c'est pas une place, c'est pas une reconnaissance, on s'en fiche. Ce qu'on cherche, c'est de concourir à l'intérêt général parce qu'on porte une vision du monde du travail, une vision de la société. Et donc, d'être écouté en cela. Et la différence avec les partis politiques, c'est que nous, on se présente pas aux élections.
Bon, donc, vous avez d'autres élections.
Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie, elle marche sur trois pieds. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Il y a évidemment la démocratie élective, représentative, le vote. Et ça, c'est suprême d'une certaine manière. Et il n'y a pas de remise en cause de cette légitimité de ma part. Et puis, on a bien vu, il y a une volonté très forte des citoyens de s'exprimer davantage, de participer aux choix qui les concernent. C'est ce qu'on appelle la démocratie citoyenne, la démocratie participative. On vient de voir avec le grand débat une volonté, une aspiration réelle, certaine, à davantage participer aux choix qui nous concernent. Et il y a aussi une démocratie sociale. Le fait que, comme il a été dit par le président dans sa réponse hier, il y a des intérêts différents dans une société, qui traversent une société. Et il y a besoin que ces intérêts ils se confrontent, qu'ils soient portés. Mmh. Et ça, ce sont les acteurs sociaux, les corps intermédiaires qui le font. Et il doit y avoir une reconnaissance de cette démocratie sociale. Et de fait, c'est très faible, cette reconnaissance de la démocratie sociale, jusqu'à aujourd'hui.
Votre point de vue, Laurent Berger, sur le mouvement des Gilets jaunes, avec cet acte 18 qui a été émaillé par des violences, quel regard portez-vous sur ce mouvement?
Dès le mois de novembre, je suis un des seuls à avoir dit qu'il y a une aspiration légitime d'un certain nombre de citoyens sur des difficultés à pouvoir vivre décemment, correctement, à être reconnus. Et il y a de l'autre côté des poussées totalitaristes dans ce mouvement que j'ai dénoncé. Je me suis fait un peu cartonner parce que je disais les choses ainsi dès le mois de novembre. Aujourd'hui, on a quoi? On a un mouvement extrêmement violent, récupéré par des casseurs, par des extrémistes. Et il n'y a qu'une chose à faire de ce qui s'est passé samedi, c'est une pure condamnation. Une condamnation sans ambiguïté de ces violences qui sont insupportables, qui ont des conséquences très concrètes pour tous ceux qui travaillent sur les Champs-Élysées, des conséquences très concrètes pour les habitants, avec des drames aussi, puis des conséquences très concrètes pour les policiers qui se sont fait agresser encore samedi. Donc, moi, j'ai un regard très, très négatif sur ce qui s'est passé, une condamnation sans réserve. Maintenant, il faut trouver les voies de sortie de ce débat pour apaiser la société et trouver les solutions en termes de transition écologique et de justice sociale.
Dans le journal Le Monde d'hier, daté d'aujourd'hui, et il y avait des interviews de Gilets jaunes qui expliquaient « Oui, mais s'il n'y a pas d'actes violents, on n'est pas entendu, Laurent Berger. »
Ben c'est faux. C'est faux et c'est surtout très dangereux de penser ça. La démocratie, elle progresse, mais là aussi parce qu'on prend en compte ses intérêts divergents qui la traversent. Et ça, c'est le rôle des acteurs sociaux. Et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur les associations, les organisations syndicales, les organisations patronales, d'autres acteurs, c'est les ONG. Parce que c'est ainsi qu'on fera comprendre qu'on peut avancer dans notre pays autrement qu'en se mettant sur la figure et en cassant.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Ce débat, il a eu lieu. Il a plutôt réussi.
On va pas, c'est vrai.
Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Nous, on s'y est inscrits, on a dit, c'était pas le nôtre, on a dit, on va organiser des initiatives, ça a plutôt fonctionné. Maintenant, il faut savoir...
Qu'est-ce que vous avez fait comme grand débat? Quelles ont été vos initiatives, Laurent Berger?
Dans tout un tas de départements, il y a eu des initiatives, soit tout seul, soit collectivement, d'organiser des initiatives où on invitait les citoyens. Et grosso modo, il y a la moitié d'adhérents qui sont venus, mais la moitié de non-adhérents aussi. Et on a discuté à partir des 4 thèmes. Alors nous, on avait rajouté un cinquième qui était le pouvoir d'achat, parce que de notre point de vue, ce thème n'est pas du tout purgé. Et on proposait aux citoyens, aux travailleurs, c'était plutôt les gens du monde du travail, de débattre autour de ça. Et c'était très intéressant. Et c'est vrai qu'il y avait des points de vue divergents, et on peut émettre des points de vue divergents en toute tranquillité, en tout respect de ses interlocuteurs. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je crois qu'il y a une phase de rendu obligatoire de la part du gouvernement. Donc, on prend ce temps de digérer et de dire voilà ce qui a été dit. Ce sera très contradictoire, c'est évident. C'est l'ensemble de la population qui l'a dit, enfin, en tout cas, une grande partie. Et puis ensuite, il va falloir des propositions concrètes. Nous, on en fait quelques-unes sur la transition écologique, la rénovation thermique des logements. Il faut un vrai investissement. Il faut des contrats de transition écologique dans les territoires. C'est-à-dire des contrats de transition écologique qui accompagnent les citoyens dans la conversion écologique qui est nécessaire aujourd'hui. Il faut davantage de démocratie sur les lieux de travail.
Parce qu'on va reparler de vos propositions pour impact écologique, notamment celles que vous avez formulées avec Nicolas Hulot, Laurent Berger, mais sur le domaine social et social pur.
Sur le domaine social et social pur, il y a d'abord l'expression de ce que sont les aspirations des travailleurs dans les entreprises. On avait l'occasion de le faire avec la loi Pacte, qui a insuffisamment repris nos propositions sur ce thème. Nous, ce qu'on propose, c'est que sur la façon dont vivent les salariés, leur travail, les travailleurs vivent leur travail, sur la façon dont ils ont de pouvoir s'exprimer ou la possibilité qu'ils ont de pouvoir s'exprimer sur la stratégie de l'entreprise, il faut donner plus de place aux représentants du travail. Ça veut dire plus de place à l'expression, au groupe de parole des salariés dans les entreprises, sur leur travail, mais aussi plus de représentants des salariés dans les conseils d'administration, dans les instances de gouvernance des entreprises. Vous savez, l'aspiration à davantage de démocratie, elle touche aussi le monde du travail. C'est très fort, ça revient dans les débats, et donc on fait des propositions autour de ça. Et puis, sur les questions sociales, il faut des choses très concrètes dans le pouvoir de vivre. À hauteur de femmes et d'hommes, un chèque transport, il faut des aides à la mobilité, il faut des aides au logement, et notamment à la rénovation thermique. Vous savez que la rénovation thermique, ça recouvre toutes les vertus d'une bonne mesure. Hein. C'est ça lutte contre le réchauffement climatique, c'est très émetteur de CO2, les passoires thermiques. Ça permet de réduire les factures énergétiques pour les ménages les plus modestes, notamment, et ça permet de créer des emplois dans les territoires. Donc, il faut investir. Il faut une politique d'investissement très très puissante dans cette transition écologique et notamment dans cette rénovation thermique.
Mais c'est quand même un peu étrange d'entendre un syndicaliste, vous êtes secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, évoquer le pacte écologique, évoquer par exemple des questions de rénovation thermique des logements.
Pourquoi ?
Tout simplement parce
qu'on voudrait qu'un syndicaliste y soit cantonné aux seules difficultés.
Monde du travail.
Oui, mais le monde du travail, c'est aussi des travailleurs qui vivent dans ces passoires thermiques. C'est aussi des travailleurs qui ont du mal à se déplacer. Ce sont des travailleurs qui, certes, ont des difficultés de conditions de travail, je viens d'en parler, pour améliorer la qualité de vie au travail, mais qui ont aussi des difficultés pour se loger, pour évoluer, pour être reconnus dans la société. La CFDT, elle est totalement dans le fil de son histoire lorsqu'elle fait ça. Nous avons toujours été très attachés à ce qu'est notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est quoi ? La qualité de vie au travail, l'emploi, la protection sociale, les rémunérations. Grosso modo, c'est les thèmes. Et ça, on est très investi dans les entreprises, très investi d'un niveau national aussi. Et puis, nous a toujours considéré qu'on devait prendre notre part aux questions sociétales. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est très en lien avec avec le monde du travail aujourd'hui.
Alors, je vais le dire autrement, Laurent Berger. On a l'impression que ce que la CFDT, ce que vous cherchez à faire actuellement, c'est tout simplement de remplir l'espace que n'occupent plus les partis politiques.
Non, pas du tout. Après, la nature...
Je ne pensais pas que vous alliez me répondre oui.
Oui, bien sûr. Mais la nature a peut-être horreur du vide. Mais la CFDT, elle est dans son rôle syndical. Vous savez, la CFDT, elle est ni opposante, ni partisane. Elle est libre et indépendante. Totalement indépendante à l'égard des partis politiques.
Pourtant,
et donc, nous faisons des propositions. Mais ce n'est pas nouveau. Vous savez, dans les années 70, la CFDT a sorti un livre qui s'appelait « Les dégâts du progrès », qui mettait en avant les questions de pollution, les questions d'intensification du travail. On ne parlait pas comme ça à l'époque, mais c'est ce que ça voulait dire. Et qui disait « Il faut des mesures globales qui permettent d'améliorer l'environnement, d'améliorer la façon dont les gens vivent leur travail, etc. On est totalement dans ce fil-là. Dans les années 80, on se mobilisait contre les dictatures, qu'elles soient sud-américaines ou des ex-pays du bloc communiste. Donc, voilà, on a toujours été dans notre rôle en ayant un regard un peu large. Ça ne nous empêche pas, aujourd'hui, d'être dans les entreprises. Moi, je pars tout à l'heure dans un Carrefour, visiter une équipe syndicale qui a fait un énorme travail en termes de conditions de travail, de défense individuelle et
qu'est-ce
collective des salariés. Tout simplement, en ce moment, vous savez, Carrefour, ils sont mobilisés sur les questions d'emploi avec une restructuration du groupe. Ils se sont mobilisés pour qu'il y ait
une prime. Toute la distribution a des problèmes.
Toute la distribution.
Aujourd'hui.
Mais vous savez, c'est symptomatique, la distribution, comme d'autres secteurs, de la nécessité d'écouter les travailleurs sur l'anticipation nécessaire de leur métier. Ce qui n'est pas suffisamment fait. Souvent, les salariés, ils sont juste bons à subir les conséquences de choix qui sont faits par d'autres. Voilà pourquoi nous disons que la prise en compte du travail réel dans l'entreprise, la volonté d'écouter les salariés et qu'ils puissent peser sur la stratégie de l'entreprise, c'est déterminant. Encore plus aujourd'hui, dans une période de forte transition technologique et écologique.
On va évoquer les conditions de travail, et notamment les conditions de travail dans la distribution, Laurent Berger, mais aujourd'hui, lorsqu'on fait une revue de presse sur vous, et j'imagine qu'on vous en transmet de temps en temps une, on lit de vous que vous êtes le premier opposant à Emmanuel Macron.
C'est faux, là aussi, c'est une erreur d'analyse. Je suis
C'est aussi un peu flatteur quand même, ça doit...
Non, pas du tout, non.
Non ?
Non, ça ne l'est pas. Moi, je préférerais qu'on dise que je suis le secrétaire général de la première organisation syndicale de France, tout simplement parce que les salariés font confiance à leurs collègues représentant CFDT pour les défendre. Et que ça fait de la CFDT la première organisation syndicale de France. Et que cette organisation, excusez, et je ne vais pas m'en excuser, elle réfléchit, elle travaille. Elle travaille depuis longtemps sur le fait que...
Elle réfléchit, ça veut dire que les autres ne pensent pas ?
Non, ça veut dire que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui... Tout à l'heure, le président de la République, il a parlé de la vérité. La capacité d'une organisation syndicale, ça doit être quoi ? C'est d'abord de regarder la réalité en face. Elle ne nous convient pas parce qu'elle est faite d'inégalités. Elle est faite de profondes transformations qui rend l'avenir incertain et qui inquiète légitimement les travailleurs. Eh bien, une organisation syndicale, son rôle, c'est de construire des propositions concrètes. Construire des propositions concrètes sur la transition écologique, sur la révolution technologique avec le numérique, sur la place du travail dans la société, et également sur les questions qui ont trait au logement, au déplacement et à l'avenir de l'humanité. Parce qu'on ne le dit pas assez. La question, les syndicalistes internationaux, ils disent, il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte. Donc ça concerne aussi le monde du travail, la question écologique.
On va faire réagir notre invité, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.
Moi, je crois qu'on vit une période de transformation ultra rapide, dont on a besoin de repenser finalement ce que doit être la société, le monde, un certain nombre de matière d'une certaine manière, et on a besoin de ces apports intellectuels. Moi, le reproche que j'ai parfois fait à certains de mes amis de ce monde-là dans ces dernières années, c'est d'être trop dans leur matière spécifique, dans leur couloir, et pas assez de penser le monde un peu de façon globale, intellectuelle un peu plus généraliste. Voilà. Et donc, on a besoin de ces apports-là. Et en ce qui nous concerne, on fait très régulièrement des rencontres avec un certain nombre d'intellectuels. Le truc, c'est qu'il faut les écouter, et pas simplement essayer d'avoir la réponse à leurs questions. C'est-à-dire que, si je peux me permettre...
Ça, c'est pour Macron ?
Non, peu importe. Moi, lorsque je fais... ça m'arrive des soirées avec un certain nombre d'intellectuels sur des sujets particuliers, je passe mon temps plutôt à écrire qu'à essayer de répondre sur des matières où ils sont plus compétents que moi. C'est-à-dire que les acteurs publics, quels qu'ils soient, politiques, syndicaux, économiques, ils doivent se nourrir des travaux d'intellectuels. Ça me paraît absolument indispensable. Ils doivent marcher sur deux jambes, ces travaux-là, être nourris de pensées, de propositions, de moyens et long terme, et en même temps, s'être ancrés dans la vie quotidienne de ceux qu'ils représentent, c'est-à-dire les travailleurs en ce qui nous concerne.
Alors, il faut peut-être rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent, Laurent Berger, qu'il y a une longue tradition à la CFDT d'intellectuels insérés au sein de la CFDT ou avec qui vous dialoguez. Pierre Rosanvallon a débuté sa carrière à la CFDT. D'autres intellectuels, peut-être vous pouvez...
Oui, bon, on a parlé de Michel Vivorca tout à l'heure, avec qui on a longtemps, on échange encore. Pierre Rosanvallon, Thierry Pech est passé par la CFDT. Voilà, on a travaillé, quand je dis on, c'est pas moi forcément personnellement, avec Michel Foucault, avec d'autres. Mais tous les jours, tous les jours, on a des rencontres avec des intellectuels et notamment la nouvelle génération. Je crois que il y a.
La nouvelle génération pour vous?
La nouvelle génération, c'est Bruno Palier sur les questions, par exemple, d'évolution du monde du travail et de la polarisation, le risque de polarisation du monde du travail. Moi, j'ai récemment, je vais prochainement rencontrer des intellectuels sur les démocraties libérales en Europe. Voilà, je crois qu'il faut. Donc, il y a un certain nombre de...
Vous avez quand même un programme très large pour un syndicaliste. Non mais, je m'excuse, je vous ai embêté tout à l'heure avec ça, mais je me permets d'insister.
En septembre dernier, je disais, notre pays a deux bombes, notre société a deux bombes à retardement. La première, c'est la question de la progression des inégalités et le non-consentement aux inégalités qui progressent, ou en tout cas qui s'ancrent de plus en plus dans la société française. Le deuxième, c'est la transition écologique, et tout ça nous fait peser un risque démocratique énorme pour demain. On y est. Et si on peut le dire, c'est parce qu'on regarde la réalité du monde du travail au quotidien, on essaye d'améliorer la situation des travailleurs, et c'est parce qu'on a une focale un peu plus élargie sur la société en général. Donc, encore une fois, je réinsiste sur le rôle d'une organisation syndicale, en tout cas de la CFDT, qui est d'être dans son cœur de métier la défense des travailleurs, de leur situation, l'amélioration de leur situation, et de l'autre côté, une vision sur la société, sur la démocratie, parce que ces mêmes travailleurs, ils sont des citoyens, ils sont des consommateurs, ils sont des habitants dans un certain nombre de quartiers, et ils méritent qu'on prenne leur situation dans leur globalité.
Frédéric Seyss.
Oui, d'un point de vue syndical, le mandat de François Hollande, il y a maintenant plus de 5 ans, avait commencé, si on peut dire, par l'ANI, qui était l'accord national interprofessionnel. C'était en 2013, qui avait été une concertation relativement salué par les syndicats à l'époque, qui avaient le sentiment en tout cas d'avoir pu peser. Est-ce que selon vous, pour démarrer cet acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron que ses proches souhaitent désormais, il faut une sorte d'ANI 2, c'est-à-dire une grande concertation, mais pas seulement une concertation où l'on écoute, mais une concertation où l'on finit avec un accord signé sur une table avec des décisions nouvelles?
Je crois qu'il faut que les acteurs soient engagés. Pour qu'il s'engage, il faut qu'il soit soumis à autre chose que du commentaire. Cet accord en 2013, il était quoi? Si on peut s'arrêter 15 secondes. Il était d'abord une amélioration de la vie quotidienne d'un certain nombre de travailleurs. La prise en compte par l'employeur, le paiement par l'employeur d'une partie de la complémentaire santé, ça a concerné 2 à 3 millions de salariés qui n'avaient pas... C'était un gain de pouvoir d'achat réel. En même temps, on était sur la vision de moyen terme. On était rentré dans une logique de négociation des plans sociaux pour pouvoir peser sur leur contenu. Et on était aussi sur une logique de plus long terme avec la participation pour la première fois des salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Mmh. C'est-à-dire qu'ils prenaient la globalité de la vie quotidienne à hauteur de femmes et d'hommes, et en même temps une vision du monde du travail qui doit évoluer. Mais c'était un accord. Ça veut dire qu'il fallait s'engager. Il fallait prendre sa responsabilité. Et aujourd'hui, c'est vrai, moi je crois, pour sortir de ce grand débat, il y a des choix qui doivent être faits. Il y a des choix en termes de répartition des richesses, en termes de fiscalité. Il y a des choix qui doivent être faits en termes d'évolution du monde du travail. Oui, on peut, en tout cas la CFDT y est prête, être mis en face de nos responsabilités en disant, est-ce que vous êtes prêt à vous engager sur ça.
Donc vous souhaitez Frédéric un Seyss. Accord sur la même forme, en quelque sorte, à la fin des négociations pour trouver des idées et pour les voter.
La sortie du grand débat, elle est tellement large, entre la transition écologique, la démocratie, la citoyenneté, la place des services publics, la fiscalité, que c'est pas un accord avec les organisations syndicales ou patronales seulement. Mais en tout cas, il faut, je crois, entraîner, c'est le sens du pacte que nous avons signé avec 19 organisations, il faut entraîner les forces vives de la nation dans un certain nombre de choix à prendre, de choix à faire, à condition qu'ils soient d'accord avec ces choix, évidemment. Mais je crois que c'est de ça dont il s'agit. C'est ce dont il est question, finalement. C'est pour ça qu'on parle de pacte. C'est de redéfinir ce qu'est le pacte. C'est quoi un pacte? C'est on se projette, on définit un avenir commun, souhaitable. Et on essaye de s'y engager collectivement, chacun dans sa responsabilité, avec les contradictions qui sont inhérentes à toute société. Mais chacun essaye de s'y engager en prenant sa part de responsabilité.
Oui, mais vous savez qu'il faudra aussi du concret et de l'immédiat pour que cette réponse apparaisse comme une réponse qui n'est pas uniquement théorique, si vous
voulez.
Non,
bien sûr, mais le concret et l'immédiat, c'est la question de la fiscalité. La répartition des richesses,
et alors justement, c'est la question... sur la fiscalité, plus précisément, Laurent Berger.
Mais je crois que le gouvernement ne fera pas l'économie d'une perception qui est réelle aujourd'hui dans la population, qu'un certain nombre de mesures fiscales depuis le début de ces quinquennats ont bénéficié aux très très riches, et qu'un certain nombre d'efforts ont été demandés à la masse de la population.
Vous voulez quoi, le rétablissement de l'ISF ?
Non, mais moi, je ne suis pas sur les combats perdus. Tout le monde a compris que c'était pas forcément ça qui était... Mais je suis pour une...
On l'a compris de manière,
je suis pour une tranche d'impôt supplémentaire sur les revenus. Je suis pour une taxation du capital plus importante. Je suis pour qu'on revoie...
Taxation sur le capital, ça signifie que vous voulez le rétablissement de l'ISF ?
Non, ça peut être la fin de la flat tax. Je souhaite qu'il y ait sur la transmission du patrimoine beaucoup plus de contraintes pour les détenteurs de très haut patrimoine qui transmettent leur vivant. Vous savez, je suis aussi pour la fin des exonérations
des niches fiscales.
Des niches fiscales ou de ceux qui utilisent le système pour finalement passer entre les mailles du filet. Et puis il faut lutter réellement contre l'évasion fiscale. Donc voilà, on a, alors moi j'ai entendu hier, y compris dans le débat avec les intellectuels, en disant on fera pas la remise à plat, c'est de mon point de vue c'est dommage, je vous le dis, je pense qu'il y a besoin de clarification aujourd'hui dans ce qu'est la fiscalité et la contribution des uns et des autres à notre au bien commun, sinon le consentement à l'impôt va continuer de reculer et c'est un vrai drame pour notre démocratie. En tout cas, si c'était pas cette remise à plat fiscale, cette réforme fiscale de grande ampleur, il faut des mesures de justice fiscale beaucoup plus fortes. C'est très concret. C'est très concret. De la même manière, si on veut, s'inscrire dans la transition écologique, il faut réfléchir à cette idée de fiscalité écologique qui soit pas non pas versée au budget de l'État, mais qui permette deux choses, d'investir dans notre modèle productif et notre modèle de consommation vers la transition écologique et en même temps d'aider les ménages à s'y inscrire en aidant les plus fragiles.
Frédéric Saïs.
Oui, hier, Emmanuel Macron a répondu par avance à cette interpellation et vous l'avez entendu, il a dit « Si l'on modifie la fiscalité, il y a des gagnants et des perdants ». Les gagnants, on ne les entend évidemment jamais. Il n'y a pas d'interview dans les journaux de gens qui ont gagné 200 euros sur leur fiche d'impôt. En revanche, les perdants, on les entend beaucoup. Et donc, ces réformes-là, politiquement, sont extrêmement coûteuses dans le sens de la popularité. Il ajoutait même un deuxième exemple qui est que sur les droits de succession, quand ils ont été modifiés dans d'autres pays pour les très forts patrimoines, il s'est avéré que, y compris les classes moyennes et populaires, étaient en désaccord avec ces mesures et se sentaient visées alors même qu'elles n'étaient pas du tout touchées. Mais il y avait, si vous voulez, le symbole qui était « on attaque ce que j'ai mis toute une vie à gagner, à transmettre à mes enfants ». Ça, ce coup politique-là, vous l'entendez forcément ?
Sur la question du patrimoine, c'est une réalité, mais ça s'explique. Ça s'explique, vous n'êtes pas concerné, il suffit de le dire. Vous savez, si, c'est vrai, il y a plein de gens qu'on n'entend pas, quand ils sont pourtant victimes des choix qui sont faits. On n'a pas beaucoup entendu les personnes qui bénéficiaient des contrats aidés et qui se sont retrouvées sur le sable parce qu'on leur a mis fin brutalement aux contrats aidés. On n'entend pas beaucoup les personnes qui sont aux minima sociaux aujourd'hui, on les stigmatise beaucoup, on parle beaucoup d'eux, mais on les entend pas beaucoup pour expliquer comment on vit aujourd'hui avec un RSA qui n'augmente pas et qui est de faible niveau. Mais moi, je pense qu'une société se grandit lorsqu'elle se préoccupe d'abord de ceux qui sont le plus en difficulté et que, contrairement, c'est pas, on les tire pas, mais c'est parce qu'on leur permet de progresser que toute la société progresse. Donc ce sont des choix. Vous savez, moi, je ne conteste pas qu'on puisse faire d'autres choix. Mais je crois que ce qui est devant nous, c'est de se situer dans une évolution du monde au sein de l'Europe qui est complexe et du coup qui nécessite des vrais choix de qualité en termes de transition écologique, de qualité de modèle social et des choix en termes d'aide aux plus en difficulté pour que chacun se sente mieux reconnu dans notre pays et qu'on soit davantage apaisé. Ça veut dire qu'y compris, il faut viser les classes moyennes. C'est pour ça qu'on parle de prime transport, qu'on parle d'aide au logement, d'aide à l'énergie, mais aussi d'augmentation de salaire dans les entreprises. On vient de lancer, nous, une campagne salaire dans les entreprises pour dire qu'il faut la redistribution des richesses, la répartition des richesses, y compris jusque dans l'entreprise.
Mais alors, pour évoquer juste la question donc d'une redistribution ou des minimums qui sont versés via le RSA ou d'autres formes d'aide redistributive, et il y a un chiffre qui est quand même assez étonnant, qui est cité par le sociologue François Dubay. Il dit que 83% des électeurs de droite considèrent qu'il y a trop d'assistés en France et 55% des électeurs de gauche, ce qui veut dire que finalement, notre société est de moins en moins prête à payer. Il y a un consentement à l'impôt, en tout cas pour cette forme-là de redistribution, qui est de plus en plus réduit. Ça vous étonne, Laurent Berger ?
Non, ça ne m'étonne pas. On le perçoit au quotidien, cette espèce de recul.
Mais j'ai trouvé que ces chiffres étaient quand même assez...
Ils sont inquiétants ?
Assez considérables. Enfin, ils étaient considérables.
Moi, je les trouve inquiétants. Il y a un recul du consentement à la solidarité, mais aussi pour une raison simple, c'est qu'on considère que, et là, on peut se retrouver parfois avec le président de la République, on considère parfois que c'est une situation durable. Ce dont il est question, c'est pour ça que dans les propositions que nous parlons d'accompagnement tout au long de la vie, y compris à l'accès aux droits qui sont les nôtres. Je crois que, moi j'étais conseiller en insertion professionnelle, j'ai vu très souvent des travailleurs qui étaient au chômage reprendre le travail parce qu'on leur filait un coup de main, parce qu'on les aidait, parce qu'on les accompagnait, parce qu'on les considérait dans ce qu'était leur singularité. Et je crois qu'une des solutions aux problèmes qui sont posés aujourd'hui, c'est d'accompagner les personnes pour que leur situation évolue positivement. Et c'est pas de les laisser, soit de les stigmatiser, soit de les culpabiliser, ou de les laisser à leur situation en disant, bah voilà, on fait notre minimum et on a fait notre boulot.
Question Frédéric à votre Seize. Double casquette, celle de patron, si vous me permettez le terme, de la CFDT, et celle de votre ancien métier de conseiller d'insertion. Quand vous entendez cet argument qui revient quasi quotidiennement dans la bouche de beaucoup de politiques, principalement à droite, sur les emplois non pourvus. On nous dit qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois qui sont non pourvus en France et que donc il faudrait orienter les chômeurs vers ces emplois non pourvus. Est-ce qu'ils existent ? Pourquoi ils ne sont pas pourvus ? Quel est votre diagnostic sur ce point ?
Oui, ils existent pour une part. Pour une part, ils existent. Ils sont de deux ordres. Soit c'est des métiers où il y a besoin d'une qualification, on n'a pas les personnes qualifiées en face.
On parle des chaudronniers, c'est ça ?
Oui, d'un certain nombre de métiers concrets. De l'industrie, oui, notamment de là d'où je suis originaire, dans la construction navale, il y a aujourd'hui, parce qu'il y a un afflux d'activités, des emplois qui sont difficiles à pourvoir. Donc là, il y a un enjeu de formation et de mobilisation dans les territoires, des branches professionnelles, des acteurs sociaux en termes de formation. Et d'accompagnement des jeunes ou des moins jeunes vers ces formations. Et de l'autre côté, il y a aussi une part des métiers dont on parle, qui sont non pourvus, dont s'est posée la question de la qualité du travail. Quand je dis la qualité du travail, c'est la rémunération, les conditions de travail, etc. Donc, il faut pas. Moi, vous savez, je suis toujours assez étonné dans un certain nombre d'endroits, d'entendre les uns ou les autres disant, mais il faut contraindre à aller travailler telle et telle personne. Mais quand on leur demande s'ils ont envie que leurs enfants occupent ces emplois-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui lèvent le doigt. Donc, ça veut dire qu'il faut agir sur la qualité du travail.
Donc, c'est aussi le problème du patronat, ces emplois.
Oui, bien sûr, c'est aussi le problème des organisations patronales. Quand dans un secteur comme l'hôtellerie et restauration, dont on nous parle beaucoup, la précarité est devenue la norme en termes d'embauche, et que les salaires sont bas, et que les conditions de travail, on le sait, sont exigeantes, parce que c'est plutôt des horaires décalés, eh bien, il faut s'interroger sur la qualité de ces emplois pour que un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes, là encore, aient envie de s'y orienter.
Mais alors, regardez, Laurent Berger, parce que ça, c'est un cas typique que l'on rencontrait dans la grande distribution. Jadis, il y avait énormément de discours sur le fait que travailler dans la grande distribution, cela signifiait avoir un travail difficile, avec des rémunérations qui étaient des rémunérations très modestes. Et aujourd'hui, eh bien, on voit ces emplois disparaître parce que les grandes surfaces sont de plus en plus automatisées, parce que également, on l'évoquait tout à l'heure, et il y a des problèmes, ou en tout cas, ces grands groupes considèrent qu'ils ne sont plus suffisamment rentables. Il y a même eu des pertes chez Auchan, il y a des pertes chez Carrefour. Et alors là, cette fois-ci, le discours est complètement différent, parce que les emplois qui, hier, étaient considérés comme étant des emplois difficiles deviennent des emplois qu'il faut préserver.
Oui, on est dans un certain nombre de secteurs, on est en train de vivre ce qu'on a connu dans l'industrie. On est habitué dans l'industrie à gérer, entre guillemets, à subir, à vivre des restructurations. Là, aujourd'hui, des secteurs comme la grande distribution en vivent. Pourquoi ? Parce que les modèles de consommation ont bougé, parce que les usages ont bougé, parce que... Et là encore, il y a deux choix. C'est soit on fait le constat un peu sec et puis on dit bah il y aura des conséquences sociales, et bien tant pis pour vous, et on met de côté tout un tas de salariés. Soit on anticipe. On anticipe sur peut-être sur l'évolution des modes de consommation, d'autres attentes du consommateur à l'égard du distributeur. Et donc on accompagne les salariés en termes de formation à évoluer dans leur métier. Pardon. Moi je suis frappé sur un certain nombre de secteurs. Il y a des vraies différences. soit on a anticipé et on a accompagné les salariés, on a parlé vraiment en termes de vérité, soit on découvre dans la presse qu'il y a des restructurations qui vont avoir lieu. Ben, les salariés, dans ces cas-là, ils sont sur le bord du terrain. Ils peuvent pas peser, ils peuvent pas intervenir.
Concrètement, donc, pour Carrefour, qu'est-ce que vous préconisez, bah, Laurent Berger, parce que la situation, elle est assez...
Sur Carrefour, nos équipes, et moi je me suis mobilisé, j'ai été manifesté avec eux, sur Carrefour, on demande à ce qu'il y ait une vraie discussion sur l'avenir stratégique du groupe avec les organisations syndicales.
Là, malheureusement, le discours du PDG de Carrefour est assez clair sur sa stratégie. Il y a des fermetures de magasins prévues.
Oui, et dans ce cas, ça se discute sur... d'abord, il faut regarder le statut de ces magasins, parce que parfois, c'est pas simplement des fermetures, c'est des cessions... À d'autres de ces magasins. Il faut regarder la situation des salariés, comment on fait en sorte de maintenir l'emploi, de maintenir, lorsqu'ils sont cédés à d'autres, leur statut, au sens de leur rémunération. C'est-à-dire que les salariés, c'est pas des pions, quoi. Il faut arrêter quand même. Il faut arrêter de considérer qu'il y aurait une forme de fatalité et de vérité qui serait celle portée par les dirigeants des groupes internationaux ou des entreprises. Et puis les salariés et les représentants syndicaux, bah, ils n'ont plus qu'à gérer les conséquences. Ça marche pas comme ça. Moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a des évolutions économiques et personne ne peut les nier. Mais ces évolutions économiques, il faut les discuter, il faut les anticiper pour que ce ne soient pas les salariés qui, in fine, soient les dindons de la farce.
Frédéric Seize.
Évolution économique, évolution technologique aussi. Êtes-vous favorable à une taxe sur les robots? C'est un mot un peu fourre-tout pour justement évoquer ces technologies qui, de plus en plus, remplacent la capacité humaine.
Non, je crois pas que ce soit la bonne formule, ce soit la taxe sur les robots, très clairement. Pour une raison simple, c'est que les robots, c'est pas aussi simple. Enfin, on peut pas considérer que ça remplace forcément des emplois. C'est aussi facteur d'amélioration des conditions de travail. J'hésite beaucoup d'entreprises où la robotique a permis de faire évoluer les métiers et dans le bon sens.
D'enlever les tâches les plus pénibles.
Hein, oui, bien sûr. Je pense pas que ce soit la bonne formule, ce soit taxer les robots. D'ailleurs, la CFDT s'est prononcée dans son congrès en juin dernier contre cette taxation des robots.
Suppression donc. En tout cas, pas de taxe sur les robots, Laurent Berger. Y a-t-il une manière, dans ce cas-là, d'augmenter la qualité des emplois avec l'automatisation ou avec la robotisation?
Je connais rien d'autre pour améliorer la qualité des emplois que le dialogue social. Rien d'autre, il n'y a pas de mesure miracle. Vous savez, on a tous une particularité, c'est que dans nos métiers respectifs, on a une singularité dans la façon dont on perçoit notre métier, dont on perçoit notre travail. Et rien d'autre ne peut s'améliorer, ça ne peut pas s'améliorer autrement que en développant des espaces de travail, des espaces d'expression des salariés sur leur travail. C'est ce qu'on avait poussé en 2013 dans l'accord qualité de vie au travail. Aujourd'hui, nous, on demande au patronat de rouvrir une négociation, une concertation sur la qualité de vie au travail, et que dans les entreprises, il y a un vrai espace de discussion sur ce travail. Et c'est vrai dans le privé comme dans le public, où les agents publics crèvent d'une certaine manière parfois du non-discussion sur leur travail et le devenir de celui-ci.
8h40 sur France Culture, on continue d'évoquer les différents dossiers dont le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, notre invité à la charge en compagnie de Frédéric Seize. Vos 66 propositions pour un pacte social et écologique, Laurent Berger, il y a aujourd'hui des manifestations des jeunes pour le climat. Quel est votre sentiment par rapport à ces manifestations de jeunes?
Ah, écoute, c'est un sentiment de satisfaction. Je trouve ça réjouissant. Vendredi dernier, j'ai trouvé réjouissant que des centaines de milliers de jeunes en France, en Europe, dans le monde, se préoccupent de ce qu'est finalement l'essentiel, c'est-à-dire le devenir de la planète. Et donc, je trouve ça très positif. On les soutient sans vouloir les récupérer, évidemment. Donc, je m'arrêterai là, mais je trouve ça très bien. Parce que de quoi il s'agit finalement ? Il s'agit d'envisager l'avenir à hauteur de femmes et d'hommes en améliorant la situation concrète des personnes en termes de logement, de transport, de pouvoir d'achat, etc. Et en même temps, de reconsidérer le monde dans lequel nous voulons vivre au regard des défis qui sont les siens. Et ce défi, le premier de ces défis, il est écologique, il est environnemental, il est le réchauffement climatique. Et donc, on a besoin aujourd'hui d'avoir des politiques qui articulent ces deux dimensions du pouvoir de vivre et de la transition écologique pour qu'on vive dans un environnement plus sain.
Mais alors ça, c'est la théorie, évidemment, pour le secrétaire général que vous êtes. Il y a aussi la pratique, et il peut y avoir parfois des dilemmes, j'imagine, dans votre position sur cette question de l'écologie. Par exemple, sur la question du diesel, tous les spécialistes s'accordent à penser qu'il faut réduire sa place pour réduire les émissions de particules fines. Quand vous êtes face à des responsables syndicaux d'une usine Peugeot qui emploie beaucoup de personnes sur la construction de modèles diesel, qu'est-ce que vous leur dites, voilà, nous on est écologique, donc on ne peut pas vous soutenir dans votre lutte sociale. Oui, il va falloir réduire la voilure, si j'ose dire, sur les véhicules diesel.
Il va falloir réduire la voilure sur les véhicules diesel, tout simplement parce que du diesel, il s'en vend plus. Et ça va être de plus en plus difficile.
Ça a baissé, c'est 30% des ventes désormais.
Oui, donc il y aura... La question, allez, mais ils sont coupables de rien du tout, ces travailleurs. La question, c'est comment on les accompagne. On a fait une proposition dans un livre qu'on avait écrit qui s'appelait « Réinventer le progrès » avec Pascal Canfin. C'était les contrats de transition écologique. Dans un certain nombre de territoires, de filières professionnelles, il y aura ces évolutions. Elles seront soit subies, soit anticipées. Donc il faut les anticiper en regardant ce que seront les évolutions. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin de production d'autres types de véhicules. Mais ça veut dire qu'il faut investir massivement dans ces productions d'autres types de véhicules. Et donc la question, elle n'est pas, c'est pareil sur les centrales à charbon, elle n'est pas de dire on continue comme avant si on veut être dans une logique de transition écologique, mais elle ne peut pas être de dire tant pis, on fait une croix et puis débrouillez-vous. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir sur les territoires, dans les filières professionnelles, à l'avenir des métiers, à l'avenir des travailleurs. C'est ce qu'on propose avec ces contrats de transition écologique. Ça fait partie d'une des mesures fortes de notre pacte. C'est de dire que cette transition écologique elle doit s'inscrire dans des dynamiques territoriales. Bien, faisons-le. C'est plus long, c'est plus difficile qu'il n'y a qu'un faucon, mais c'est beaucoup plus porteur si on veut s'inscrire véritablement dans un nouveau modèle de développement.
Laurent Berger, parmi vos 66 propositions, celles que vous avez formulées en compagnie de Nicolas Hulot, il y a instaurer une fiscalité écologique solidaire et sociale avec une trajectoire de la taxe carbone, bref, une taxation, un retour également de cette taxe carbone. Il se trouve qu'Emmanuel Macron a essayé et on a vu le résultat que cela avait pour le diesel. Alors comment vous y prendriez pour faire accepter ce type de taxe?
D'abord, il faut que ce soit totalement déconnecté du budget de l'État. Il faut que ce soit spécifiquement pour s'inscrire dans la transition écologique. Et donc il y a deux axes. Un, pour investir dans les filières, dans les modes de production d'avenir. Je pense qu'on a besoin d'un grand plan d'investissement au niveau européen sur le climat. C'est pour ça que nous, on soutient le pacte finance-climat qui a été lancé notamment par M. Jouzel, dont on parlait tout à l'heure. Et de l'autre côté, il faut que cette fiscalité écologique, elle aide les ménages à cette conversion écologique. C'est-à-dire qu'elle soit neutre pour les ménages les plus modestes. C'est ça la proposition que nous faisons. Il est grand temps de s'y inscrire. On ne le fait pas par plaisir de la fiscalité, on le fait par nécessité écologique et nécessité sociale. Voilà les axes, ce que nous proposons en tant que tel sur la fiscalité écologique.
Frédéric Seize.
Est-ce que vous donnerez une préférence implicite ou explicite pour les européennes?
Pas du tout, non. Non, non, non. Nous dirons, je pense, encore une fois, que le Rassemblement national ne peut être une option pour le modèle de société que nous défendons.
Ce qui est déjà une préférence.
Ce qui est déjà une volonté d'être très clair aujourd'hui, comme nous l'avons toujours été à l'égard du Front National ou du Rassemblement National aujourd'hui. Et pour le reste, non, aucune préférence.
Mais par exemple, vis-à-vis des écologistes, est-ce que vous pourriez, parce que malgré tout, signer un texte en commun avec Nicolas Hulot, est-ce que...
Non, mais ce texte, il est avec 19 organisations, dont la Fondation
Nicolas
Abbé Pierre.
Hulot.
Non, la fondation Nicolas Hulot, c'est pas personnalisé entre Berger et Hulot, c'est personnalisé entre 19 organisations.
C'est dommage, parce que oui. Toutes les coupures de presse...
Oui, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, tant mieux si ça permet de pousser les idées, mais n'empêche que la réalité, ce sont 19 organisations. Mais vous savez, chacun peut s'en inspirer comme il veut, il n'y aura pas de consigne de vote, il n'y a pas plus de rapprochement avec tel ou tel. Tous ceux qui voudront utiliser à des fins politiques les idées économiques, sociales, écologiques que nous faisons n'auront aucune chance de nous récupérer. Moi, je suis un syndicaliste, je reste un syndicaliste. Je sais que ça paraît étonnant dans un monde où on voudrait que tout soit partisan au niveau qu'on soit tous partisans d'un niveau politique. Ben c'est pas mon cas. Moi, mon cas, c'est la défense des salariés et la défense d'une certaine conception de la société.